Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous. Oui, samedi, donc Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassen. Et avec nous aujourd'hui, deux grandes figures du journalisme en France, Michel Cotta et Robert Namias, tous deux éditorialistes politiques à Europe 1, qui publient cette fois-ci un roman policier, j'aurais envie de dire, un polar politique qui s'appelle tout simplement Fake News. C'est vous dire s'ils sont à leur place à Mediapolis. On commence comme d'habitude avec Cantelou.
On va parler maintenant de Marine Le Pen qui a présenté son projet pour l'Europe dans le Vaucluse. Bonjour Madame Le Pen.
Oui, oui, bonjour madame. Bonjour Monsieur Malas. C'est un petit peu le bazar chez vous ce matin, je constate. Heureusement, Monsieur Aligas tente de mettre un peu d'ordre.
Merci, merci madame.
Alors votre grand truc, c'était que la France sorte de l'Europe, mais devant le fiasco du Brexit en Angleterre, vous ne parlez plus dans vos discours de Frexit.
C'est joli, c'est quoi ce petit haut que vous portez là? C'est quoi? C'est du étam? C'est le temps des cerises, Sandro? C'est quoi? C'est Koukaï peut-être?
Non, vous n'allez pas esquiver la question cette fois. Hein. On ne comprend plus votre position sur l'Europe. Vous avez proposé de passer tranquillement de l'Union Européenne à une alliance européenne.
Ah, je vous l'ai dit. Une alliance. C'est très simple. Tous les pays européens pourraient se retrouver autour tout à fait d'une alliance dans un amphithéâtre à Bruxelles, par exemple, afin de trouver des terrains d'entente communs.
Bah, c'est l'Union Européenne, ça?
Non, j'ai rien à voir. Bah, c'est l'alliance. Madame. Noyez pas le poisson. Rien à voir, c'est l'alliance européenne. Car pourquoi faire cette alliance? L'Union européenne, vous savez, est le pire fléau que la France ait connu l'immigration. Voilà, l'immigration. C'est toujours le mot qui me sauve. Du coup, il faut fuir au plus tôt l'Europe, mais en même temps, nous avons besoin d'une Europe forte. Donc, il faut fuir tout en restant ensemble. Je dirais qu'il faut fuir ensemble dans la même direction.
Bah, écoutez, moi, j'ai rien compris.
Moi non plus.
On est rassurés. Merci, Marine Le Pen.
Oui, donc c'était notre ami Cantelou mardi sur Europe 1. Je pense qu'on vient d'assister, vous appelez votre polar publié chez Robert Laffont, votre polar politique Fake News. Je pense qu'on vient d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire politique française, au moins celle que je connais, c'est-à-dire de la Ve République, avec deux dirigeants de partis, et de partis importants, même une dirigeante du premier parti de France, en tout cas aux dernières élections européennes, Marine Le Pen, qui de façon délibérée, vérifiable en une minute, prononce et répète des mensonges. Sur le traité d'Aix-la-Chapelle, elle affirme que la France va renoncer à son siège au Conseil de sécurité de l'ONU au profit de l'Allemagne. Il suffit d'aller sur Internet et tout le journaliste du coup contredire en lui disant « Mais non, c'est faux, vous dites une chose qui est fausse » et elle continue. Et ça, je pense que c'est absolument nouveau. Écoutez comment la défend le jeune et dont tout le monde dit, paraît-il, donc il faut que je le répète, talentueux, leader de la liste Rassemblement National aux élections européennes, Jordan Bardella, a interrogé par Léa Salamé le 22 janvier sur France Inter.
Vous avez écouté Marine Le Pen, elle s'interroge aussi sur l'article 8 comme vous. Elle estime qu'on va organiser le partage de notre siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. Voilà ce qu'elle dit, c'est faux.
Ça c'est votre avis, encore une fois on a le droit d'avoir un avis.
C'est pas mon avis,
est-ce qu'on a le droit de s'interroger aujourd'hui? Si vous voulez, quand on entend l'Allemagne depuis un certain nombre d'années réclamer aujourd'hui cette place au Conseil de sécurité de l'ONU, réclamer que la France partage son siège avec l'Union européenne en tant que voix unique au Conseil de sécurité, on a le droit de s'interroger, on a le droit d'avoir un avis qui diverge des journalistes.
Vous avez tout à fait
le droit d'avoir un avis qui diverge des éléments de langage du gouvernement.
Que ce traité organise le fait qu'on va partager notre siège permanent, c'est faux.
Je crois que derrière ces traités, il y a cette volonté aujourd'hui de transférer des pans toujours plus important de notre souveraineté, que ce soit à Berlin, que ce soit à Bruxelles. Or, on est dans une période où aujourd'hui, les Français veulent récupérer le pouvoir.
Il soutient pas, mais il ne dément pas. Il prend une semi-tangente en transformant ça en avis. Michel Cotta, vous connaissez peut-être encore mieux que moi l'histoire de la Ve République. En tout cas, on peut faire le concours.
Personne.
Vous avez déjà vu ça?
Non, c'est pour ça que on s'est trouvé rétrospectivement absolument géniaux d'avoir baptisé notre livre Fake News, parce qu'on ne s'imaginait pas qu'il y en aurait tellement, alors des petits, des grands. Mais là, effectivement, et sur le siège, et sur le siège à l'ONU, et sur les districts de l'Alsace-Lorraine. Bon, alors, Marine Le Pen, ce matin, essaye de justifier en disant t'as tout à fait ce que, mais enfin, là, on vient d'entendre sur le lieutenant. La tête de liste européenne ne pas démentir quelque chose et même prendre le journaliste à partie parce qu'il le conteste.
Mais alors, Robert Lamers, comment est-ce qu'on fait ? Je vous pose tout de suite, dans le fond, la question la plus difficile. Un certain nombre de chercheurs, par exemple, ont fait des études qui montrent que fact-checking, la vérification, la désintox qui dénonce une fake news renforçait la conviction de ceux qui avaient cru à la fake news dans leur conviction. Vous êtes journaliste, vous interrogez Marine Le Pen ou Dupont-Aignan. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'opposer la vérité factuelle lorsqu'elle est flagrante ?
Rien d'autre. Je crois qu'on est quand même... Vous disiez tout à l'heure que c'était sans précédent sous la 5e. Je crois, alors là, pour le coup, que ça l'est réellement. Ce qui n'est pas sans précédent, c'est la pratique politique qui est du plus c'est gros, plus ça passe. C'est théorisé depuis des dizaines d'années. Je pense même qu'avant la guerre, un certain nombre de partis de toute nature avaient théorisé ce plus c'est gros, plus ça passe. Là, effectivement, face à cela, il n'y a qu'une chose à faire. Je veux dire, c'est quasiment une lecture quoi, du texte. Parce que du coup, moi, je suis allé au texte, qui d'ailleurs n'est pas très long, et je dirais, et presque, pardon pour les signataires, mais quasiment anodin. C'est une prolongation assez formelle, avec un alignement de mots sur la volonté de coopérer plus encore dans un certain nombre de domaines et d'améliorer encore les liens, de rapprocher la France et l'Allemagne. C'est très, très anodin.
Si je puis me permettre... de vous contredire légèrement, l'anodin n'est pas toujours complètement anodin. Hein. Je veux dire, par exemple, le premier traité, le traité de l'Élysée, c'est lui qui mettait en place l'OFPAJ, l'Office François Allemand de je ne sais pas quoi, qui a beaucoup, beaucoup contribué, à, même si ça n'a pas été aussi loin qu'on souhaitait, à l'apprentissage des langues dans les deux pays, aux échanges entre lycées, etc., qui ne sont pas des choses spectaculaires, qui ne sont pas des choses de grande politique, mais qui ne sont pas négligeables pour autant. Donc,
L'Eurodistrict, dans le... c'est vrai que ça n'est pas anodin de créer des eurodistricts sur les frontaliers, d'ailleurs.
Exactement.
On voit bien que
c'est... Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est dans la suite logique, au fond.
Je dirais, vous êtes bien France d'en haut qui s'en fout de
ces trucs-là. C'est une piqûre de rappel. C'est vrai que le traité de 63 d'Adenauer de Gaulle a marqué vraiment un tournant historique après la guerre dans les rapports entre la France et l'Allemagne. Et là, c'est une piqûre de rappel après, quand même, il faut bien le dire, des années assez chaotiques de rapports entre Berlin et Paris. Mais pour en revenir quand même à ce que vous dites, parce que c'est terrible, effectivement, je pense que qu'un homme politique ou qu'une femme politique, en l'occurrence, arrive à dire, par exemple... Mais j'ai bien le droit de donner mon avis, alors qu'elle a affirmé quelques minutes auparavant des faits absolument contraires à la stricte vérité. Je veux dire, on est même plus dans la politique. Je pense qu'il y aura un retour à la raison. Et alors là, pour le coup, les émissions comme la vôtre, et puis les journalistes de manière générale, ont un rôle absolument central.
Alors, il n'y a plus de limites en attendant. Il y a aussi d'autres limites qui ont été franchies par un membre du gouvernement qui est allé dans une émission, disons, à tout le moins contestée, et ça a fait la grande polémique sur Schiappa chez Hanouna. On y vient dans quelques instants.
10h, 11h, Olivier Duhamel sur Europe 1.
Comme tous les samedis, on vous retrouve Olivier Duhamel avec Mediapolis. Et ce matin, vous recevez Michel Cotta et Robert Namia, éditorialiste politique, grande voix d'Europe 1 et auteur de Fake News aux éditions Robert Laffont.
Alors, Marlène Schiappa, hier soir, cette nuit, chez Cyril Hanouna. Il y a trois personnes autour de ce plateau pour en débattre. Moi, qui n'ai pas vu l'émission. Michel Cotta, qui en a vu une bonne partie. Et Robert Namias, qui est allé jusqu'au bout de la nuit.
De Norbalcar.
Et donc, d'abord, lançons le sujet avec l'échange entre Jacqueline Eustache-Brignaud, sénatrice Les Républicains, et Marlène Schiappa au Sénat le 23 janvier.
Les Français ne seraient-ils pas assez subtils ou assez intelligents pour avoir besoin de ce type d'émission, pour réfléchir, pour comprendre et proposer ?
Madame la sénatrice, il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent toutes les semaines l'émission de Cyril Hanouna. Est-ce que ces centaines de milliers de personnes sont des citoyens comme vous et moi, comme les gens qui écoutent France Culture, comme les gens qui regardent Arte? Je crois qu'on ne répond pas à des problèmes politiques de 2019 avec des solutions de 1999, ne vous en déplaise.
Bon, pas très aimable pour Arte et France Culture 1999, mais indépendamment de ce point, qu'est-ce que vous avez... Alors, je voudrais formuler ma question en la dédoublant un instant. Qu'est-ce que vous pensiez a priori, avant de voir l'émission? Et qu'est-ce que vous pensez une fois l'émission vue? Mais c'est peut-être la même chose. Alors, Michel Cotard.
Moi, a priori, j'ai buté sur le mot co-animatrice, que je n'aimais pas. Qu'elle soit face aux différents publics, y compris celui d'Hanouna, qui a la raison de dire que c'est un public qu'il n'y a pas de raison d'éloigner ou de considérer comme inférieur. Donc elle a raison. Ce qui m'a gêné, c'est le terme co-animation. Mais... je dois dire que j'ai regardé le début et j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant. Très intéressant parce que elle a joué le rôle des maîtresses d'école, mais de maîtresse d'école en écoutant quand même ce que les gens disaient. Et finalement, j'avais peur que ce soit une espèce de proposition plus populiste les unes que les autres. Et finalement, au bout du compte, on est arrivé à quelque chose de raisonnable et d'intéressant.
Robert Lamias.
Alors écoutez, moi a priori, j'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs chez un de vos confrères cette semaine, j'étais absolument favorable à cette démarche. Et les explications que donne Marlène Schiappa sont tout à fait sensées et convaincantes.
Donc ça vous gênait pas, alors, donc pas ça vous gênait, attendez, ça vous gênait pas que membre du gouvernement aille dans une émission dans laquelle on met de la nouille, des nouilles dans le pantalon pour faire du bruit, dans lequel on a tenu des propos homophobes qui ont valu avertissement du CSA, dans lequel on tient des propos sexistes alors qu'elle est ministre de l'égalité entre l'homme et la femme, ça vous gênait pas?
On va n'importe où. Honnêtement, sans rentrer dans le détail, ça n'était pas dans cette émission à laquelle vous faites allusion. C'est une autre émission qui est de nature un peu différente et elle avait choisi une autre émission. Quant au personnage, je vous pose la question. Est-ce que franchement, ça ne vous a pas gêné quand Michel Rocard, ancien Premier ministre, avec la hauteur intellectuelle qu'il avait, est allé dans une émission, on lui a demandé si Sucé s'était trompé. Donc je pense, et je pourrais vous citer énormément d'autres.
Mais enfin, ça, c'est pas un argument, parce que c'est pas parce que quelqu'un a franchi la ligne au-delà de l'acceptable que du coup tout le monde peut franchir la ligne au-delà de l'acceptable. Robert Lamias, excusez-moi.
Bon, écoutez, de toute façon, même si c'est pas un argument, ce qui est un argument, et qui était celui de Marlène Schiappa, et moi j'y adhère totalement, c'est que quand on veut parler aux Français, on va les chercher là où ils sont. Et ils sont partout. Ils ne sont pas simplement sur Arte, France Culture, Europe 1, France Inter et beaucoup d'autres. Ils sont partout. Et ils sont très très nombreux à regarder...
Donc on y va partout.
Et ben
quand Estrosi dit « Et s'il y avait encore le journal du Hard sur le Canal+, elle aurait dû aller au journal du Hard ».
Pas du tout, c'est un dérapage inacceptable qui n'a aucun rapport. D'ailleurs, il est allé, je ne sais pas où il est allé pour le dire, mais il aurait mieux fait de s'abstenir, mais ça n'a strictement aucun rapport. Je pense vraiment, en plus alors...
Est-ce que vous pensez que les gens qui regardaient le journal du Hard regardaient tous Arte? Pourquoi vous dites ça n'a aucun rapport? Il y a des gens qui regardaient que le journal du Hard, et avec la théorie de « il faut aller regarder les gens là où ils vont, on va n'importe où ».
Non mais, moi je pense que la seule petite erreur dans la réponse qu'a faite Marlène Schiappa au Sénat il y a quelques jours, c'est effectivement d'opposer Arte et puis je ne sais plus quelle autre chaîne, France Culture, absolument, à CNews et à Hanouna. Parce que vous semblez opposer le public des Gilets jaunes, le public d'Hanouna, totalement inculte, qui regarde une émission débile où on met des nouilles dans le pantalon, aux intellectuels, évidemment. Et là, pour le coup, elle consacre effectivement le grand argument politique des Gilets jaunes qui est de dire, mais enfin, on est complètement, l'élite là qui nous dirige est complètement coupée de la réalité politique, de ce que nous sommes, et ne comprennent absolument rien à ce que nous sommes.
Michel Cotard.
Oui, non, mais je voudrais ajouter que sur le débat tel qu'il a été, était quand même un débat, un, organisé, deux, avec des personnes et des personnages choisis, et parmi une sorte de jury, et parmi des classes populaires ou petites entreprises. Enfin, Vraiment pas mal du tout. Alors de temps en temps,
vous êtes tout le temps d'accord tous les deux. Hein.
Encore une fois, je trouve que. Encore une fois, je trouvais que la présence de Marlène Schiappa était naturelle, mais pas son rôle de co-animation au début. Je le dis parce que ça veut dire moi, je prends la tête d'une émission et c'est moi qui la dirige. C'est autre chose. C'est autre chose. Bon, mais je trouve que la façon dont elle a interprété son rôle, si j'ose dire, c'est-à-dire de simple pointeuse des revendications. Moi, la seule peur que j'ai dans tout ça, mais elle va plus loin que cette émission, mais elle, c'est après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?
Alors là, vous posez la bonne question, si j'ose dire, parce que les autres l'étaient. Ça ne veut pas dire que mes questions étaient nulles, il ne faut pas exagérer, mais vous posez la vraie question, la vraie difficulté. Et du coup, ça interpelle sur la conclusion de cette émission d'hier, comme sur les interventions d'Édouard Philippe hier aussi et du président de la République jeudi. Par surprise, on y revient dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et ses deux invités du jour, Robert Namias et Michel Cotta, éditorialiste politique et grande voix d'Europe 1.
Et donc Robert Namias qui défendait Cyril Hanouna et Michel Cotta qui défendait Marlène Schiappa, ou plutôt ce couple qui défendait l'autre couple qui a allumé pendant plusieurs heures l'émission. Je dois faire d'ailleurs partiellement amende honorable parce que Dieu sait que j'ai mis des réserves, voire des critiques avant, ce qui d'abord me faisait sortir de mon rôle en exprimant une opinion qui n'intéresse pas grand monde. Mais surtout, il semble que le déroulé de l'opinion de l'émission me donne tort, puisque ça s'est passé de façon assez
intéressante
et pas du tout grossière. Il y a un autre problème quand même, c'est que si les ministres, Premier ministre, Président de la République se mettent à multiplier leurs interventions dans les débats, comment est-ce qu'on fait à la sortie quand, par exemple, là, on va avoir le sentiment que Marlène Schiappa défend une TVA à taux zéro ou à taux très réduit sur les produits de première nécessité, que le Premier ministre, lui, que le Président de la République défend le fait que maintenant les 80 km/h puissent être revus à la hausse avec décision au niveau local, etc. etc. C'est-à-dire que même, non seulement on risque d'avoir la cacophonie et l'incohérence parfois des propositions émanant des Français, mais même du gouvernement lui-même.
Alors là, franchement, hier, Marlène Schiappa a évité ça. Elle a simplement transcrit le nombre de propositions qui venaient des téléspectateurs présents, en disant « Attendez, je ne préjuge rien, il y a sans doute peut-être des choses inconstitutionnelles, d'accord. Il y a peut-être des textes impossibles à cause de l'Europe. » Non, elle, de ce point de vue-là, elle a été très prudente. Simplement, moi, ce qui me fait peur quand même, c'est que...
vous avez raison, littéralement, mais... Reconnaissez avec moi que les faits, c'est quand même que, après plusieurs heures de discussion, il y a un effet de validation des propositions dans la tête des gens. Tort ou à raison, mais enfin bon.
Tort ou à raison, parce que de toute façon, ça va être là tout le temps dans ce grand débat. C'est vrai que c'est la difficulté. La difficulté, c'est un, de faire remonter les différentes propositions telles qu'elles émaneront. Alors on voit bien qu'elles tourneront, elles ne seront pas tellement différentes. On voit bien ce qui arrive en premier, c'est effectivement. L'ISF, la fiscalité, l'économie, la TVA, au fond, ça, et le pouvoir d'achat, ça arrive en premier quand même.
Et de son côté, le président de la République, dont on disait qu'il ne débattait qu'avec des maires, eh bien, il a quelque sorte rendu immédiatement. Il a immédiatement répliqué et démenti Laurent Wauquiez, qui l'accusait de fonctionner dans une bulle. Écoutez-le.
Il se trouve que j'ai eu une vie avant, et j'ai changé après de vie, et j'ai été élu par les Français. Et moi, je serais ravi qu'il y ait beaucoup de gens qui ont une vie, d'entrepreneurs ou ailleurs, s'engagent dans la politique.
Très bien.
Ça, il y a des gens qui pensent comme ça, que, avec d'ailleurs, des relents de choses que j'aime pas beaucoup, parce que derrière, ça s'apprendrait à la Banque du Pont, il y aurait certainement moins d'arguments, et ça ne me plaît pas dans votre réflexion. Il y a des gens qui vous mettent comme ça un poinçon. Eh bien, c'est tout. Vous savez, je ne suis pas un héritier. Moi, je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Si j'étais né banquier d'affaires... Vous pourriez me faire la leçon. Si j'étais né avec une petite cuillère dans la bouche ou fils de politicien, vous pourriez me faire la leçon. C'est pas le cas. Donc, je peux vous regarder en face. Vous pouvez ne pas aimer les banquiers. En attendant, vous n'aurez pas de prêt sans banquier. C'est comme ça.
Voilà, donc c'était jeudi dans la Drôme, où il est allé se confronter, alors d'une part, à un certain nombre de, d'invités par Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, puisque c'était son, son bourg de naissance, là où il avait été maire, mais aussi des Gilets jaunes, dont certains l'ont accroché assez sévèrement. Il a bien fait, Robert Lamiens ?
Oui, parce que d'abord, il répond assez cash, mais ça, c'est plutôt dans sa nature. Mais surtout, il se passe quelque chose, je crois, depuis, depuis le début de semaine, marqué en effet par cette participation à un débat qui, certes, était organisé, mais enfin, où manifestement, il faut bien reconnaître que la plupart de ceux qui étaient là n'étaient pas venus pour voir le président de la République et ont été les premiers surpris de le voir arriver. Donc, il y a quand même quelque chose de spontané. On ne peut pas non plus toujours vouloir aller chercher des choses derrière. Je ne dis pas que ça n'a pas été préparé par la maire ou par Guillaume, mais il y avait une part de spontanéité. Ce qui se passe depuis le début de semaine, et qu'on sent quand même monter à travers, notamment si vous regardez les contributions sur Internet, qui sont quand même extrêmement nombreuses, maintenant il y en a plusieurs centaines de milliers, le débat prend. La volonté, ce premier acte, qui est médiatico-politique ou politico-médiatique, puisqu'il y a les deux, ça prend. Il y a encore 8 jours ou 15 jours, on disait c'est une réponse un peu bizarre du président, ça ne marchera pas, il a fait ça pour tenir 2 mois de plus et éventuellement pour reporter le conflit au printemps. Eh bien pas du tout, ça prend vraiment. Et d'ailleurs, du coup, le risque pour l'exécutif est encore plus grand, car effectivement, vous avez raison, il va falloir que ça débouche à un moment donné sur des solutions et il va falloir naviguer entre deux risques. La boîte de Pandore, où il sort à peu près n'importe quoi, et où il y a tellement de mesures qu'on ne voit pas très bien ce qu'on va pouvoir mettre sur la table ensuite, sous forme de propositions de loi, de projets de loi ou de textes. Et puis, à l'inverse, le fait qu'il ne se passe vraiment rien, et qu'au fond, Macron en tire la conclusion qu'il a répondu à toutes les questions, et que plus que jamais, il est encouragé à continuer sur sa propre politique.
Michel,
il va falloir qu'il trouve entre
Michel
les
Cotta,
deux le chemin.
Michel Cotta, alors on peut dire, mauvaise nouvelle, les fake news se répandent partout, etc. Et votre livre est terrifiant, parce qu'il montre jusqu'où ça peut aller, et on est obligé d'y croire.
Ça mais, n'est encore qu'un roman, mais...
Mais bonne nouvelle, on est aussi capable d'inventer quelque chose d'absolument nouveau, dans lequel, d'une part, les Français discutent entre eux, là où ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, sur ce qu'ils veulent, et où d'autre part, le président de la République, le Premier ministre se coltine de temps en temps d'aller se confronter à eux, et parfois d'en prendre directement dans la figure et d'être obligé de répondre.
Alors, moi je trouve que j'avais senti depuis, c'est idiot de dire ça, mais j'avais senti depuis très longtemps que les gens ont besoin de parler, et la preuve, on sait bien que dès qu'on fait une sortie en province, qu'on est appelé par des élus à faire une petite conférence quelque part, c'est bourré. Et c'est bourré dans les... surtout dans des bistrots. Oui. C'est plein et les gens ont besoin de parler et ils trouvent que, au fond, quelque part, la télévision, ça permet aux autres de parler, mais pas à eux. Donc ça, moi, j'étais sûr que ce grand débat marcherait. Moyennant quoi, je me pose la question parce que c'est ça qui me fait peur. Je trouve que beaucoup de choses émergeront. Comment est-ce qu'on en tient compte en restant fidèle quand même au programme pour lequel on a été élu?
Toujours presser les journalistes politiques. Chaque chose en son temps, Michel Cotta. Chaque chose en son temps.
C'est-à-dire
qu'on ne peut pas faire vous dire ce que sera la restitution alors que le débat fait à peine que commencer. Et pendant ce temps-là, il y a une autre personne qui a trouvé une autre façon de parler et d'exister. C'est d'intervenir seulement une fois par an. Qui? Vous le saurez dans quelques instants.
Olivier Duhamel, vous recevez ce matin dans Mediapolis deux éditorialistes politiques, grande voix d'Europe 1, Michel Cotta et Robert Lamiens.
Eh oui, ils ont fini par deviner, mais vous, est-ce que vous avez deviné? Donc, cette personne qui a décidé de, pour continuer à exister et à occuper une place importante dans notre espace politico-médiatique, cette personne ne parlerait qu'une fois l'an. Cette personne ne parlerait que loin de France. Cette personne ne parlerait que dans une langue étrangère. Et malgré tout ça, de cette personne, on n'arrêterait pas de parler. Eh bien, c'est Marion Maréchal, ex-Marion Maréchal Le Pen, à Oxford. Alors, Alice Baudry, directrice du développement et de la stratégie à l'Institut Montaigne, nous précise d'abord, parce que c'est important, qu'il ne s'agit pas de l'université d'Oxford, contrairement à ce que beaucoup ont un peu vite dit ou cru, mais de l'Oxford Union, qui est une société de débat de la ville d'Oxford en Angleterre, une des plus anciennes sociétés de débat de la ville d'ailleurs, dont en effet les membres viennent pour beaucoup de l'université d'Oxford, mais ce n'est pas l'université elle-même. Elle a été critiquée pour avoir invité Marion Maréchal à prendre la parole. Et quelques jours avant la tenue de l'événement, la députée travailliste Madame Dodds a déclaré qu'il serait raisonnable que l'Oxford Union désinvite officiellement cette intervenante. Elle a déclaré que l'Union avait tendance à inviter, je cite, « des personnes issues de mouvements que la plupart des commentateurs considéreraient comme racistes ». En novembre dernier, ils avaient invité l'ancien conseiller controversé de Donald Trump, Steve Bannon. Mmh. Le même mois, Alice Weidel, chef du parti d'extrême droite allemand Alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne. Mais à la dernière minute, cette personne n'était pas venue pour des raisons de sécurité. Et Madame Dodds dit « L'événement du 22 janvier avec Marion Maréchal est un coup de com', ça n'est qu'une tentative de publicité qui met à rude épreuve les moyens de la police dans la ville. » Cela dit, il n'y a eu qu'une cinquantaine de personnes qui ont manifesté. Moi, je reviens à mon propos de départ. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de com' géniale, cette histoire de « je vous parlerai que tous les 6 mois ou tous les ans, et si possible hors de France » Michel Cotard.
Je trouve que c'est... Enfin... Je trouve qu'elle se débrouille pas mal. L'idée de faire une espèce d'école de sciences économiques, politiques, etc.
Vous avez failli gaffer, mais vous avez évité.
Déclarée comme étant telle, disant voilà, c'est Marion Maréchal Le Pen qui fait une école. Déjà, c'est incroyablement gonflé quand même, parce que vous parlez de Sciences Po, mais vous ne feriez pas une école tout seul, quoi. Voilà. Bon, donc déjà, c'est extrêmement gonflé. Deuxièmement, elle a institué une vraie distance avec sa tante. Or, le danger était effectivement de faire apparaître dès maintenant un combat de femmes. Mm-hmm. Non, ça c'est, elle a évité ça. Et troisièmement, rester sur sa réserve tout en intervenant peu, mais à un moment choisi. C'est vrai que c'est le contraire de la stratégie qu'on a prêtée longtemps à Marine Le Pen. Et donc, un, ça la fait exister, ça la différencie. Et c'est pas mal comme stratégie. Maintenant...
Robert Lagnasse, comme d'habitude, d'accord avec Michel Cotta, mais comme d'habitude, quand même quelque chose à dire.
Oui, quelque chose. Moi, je pense que vous avez souligné qu'elle jouait la rareté, et c'est évidemment la bonne forme de posture et de communication politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des échéances proches. Marine Le Pen est en poste. Elle dirige, autant que l'on sache aujourd'hui, le Rassemblement National. Et on voit mal, en effet, comment Marion Maréchal pourrait réellement, sur ce terrain-là, tenter de la combattre. En revanche, moi je pense qu'il y a une réalité politique qui est un tout petit peu plus nuancée que celle qui semble apparaître. C'est-à-dire que si vraiment l'extrême droite aujourd'hui est apparemment politiquement renforcée, et elle l'est vraisemblablement, on le verra dans les chiffres, les prochaines élections, mais elle l'est, et elle l'est de manière importante, au détriment de la droite classique la plus dure, et au détriment d'une forme d'extrême-gauche qui, on le sait, traditionnellement bascule rapidement de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, comme le Parti communiste, une partie de l'électorat du Parti communiste est passée à l'extrême-droite. Donc l'extrême-droite est très forte. Ça ne veut pas dire que Marine Le Pen est très forte. Ça, on ne pourra le mesurer que lorsqu'elle sera elle-même, à titre personnel, à nouveau confrontée à des échéances électorales. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je vous rappelle que, vraisemblablement, elle ne sera même pas tête de liste européenne. Pas plus que les autres. Donc, moi,
ça, parce qu'elle a compris que dans le monde médiapolitique, il n'y a pas besoin d'être tête de liste pour être tête de liste. Elle va être tête de liste médiatique sans être tête de liste effective, juridique.
Mais elle capitalise sur un vote qui est un vote d'extrême droite. Mais moi, je pense que l'analyse de Marion Maréchal, sous couvert d'être démenti, mais c'est d'apparaître, elle, comme la personne qui pourra hériter et porter cet électorat-là, à un moment donné, en rassemblant une partie de la droite la plus extrême et la plus libérale sur le plan économique, et l'extrême droite.
Alors écoutez, là il y a une question vraiment politique importante, à laquelle on ne peut pas répondre de manière certaine, c'est évident, mais qu'il faut quand même tester sur la possibilité. Est-ce qu'il est possible pour vous qu'à la prochaine élection présidentielle, une candidate d'extrême droite gagne l'élection. Est-ce qu'il est possible qu'émerge une alliance entre Rassemblement National et Les Républicains, ou est-ce qu'il est possible qu'il y ait les jonctions des deux extrêmes à l'italienne entre la France Insoumise et le Rassemblement National ? Réponse à ces importantes questions de la possibilité dans quelques instants.
Robert Namias et Michel Cotta, éditorialiste politique, grande voix d'Europe 1 et auteur de fake news aux éditions Robert Laffont, sont vos invités, Olivier Duhamel, jusqu'à 11h dans Mediapolis.
Alors, pas fake news, mais real opinion, vraie opinion. Il ne s'agit évidemment pas de demander une prévision politique qui n'aurait aucun sens. Il s'agit juste de voir si des choses qui étaient impossibles, étaient tenues pour impossibles, ne seraient pas devenues possibles. Première question. Est-ce qu'il est possible qu'un ou une, plutôt une candidate d'extrême droite, gagne la présidentielle de 2022, Michel Cotta ?
Je continue à ne pas y croire et je vais vous dire pourquoi. C'est autant l'extrême droite peut profiter des gilets jaunes, des agitations, etc. Autant la personne même de Marine Le Pen, on le voit dans les sondages, est encore très décriée. C'est 62% des Français sont contre, et c'est quand même beaucoup. Alors, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un front républicain, au fond, comme avant, parce que ça, le front républicain, a été explosé avec, depuis longtemps.
Non, mais vous m'avez répondu à ma première question. On y revient après, sur la suite. À cette première question, Robert Namias, est-ce que c'est possible ?
Je dirais que c'est encore hautement improbable.
Ma question, c'est est-ce que c'est possible ?
Mais pas complètement impossible.
C'est devenu possible, nous sommes d'accord ?
Je pense que c'est devenu possible. Pourquoi est-ce devenu possible ? Parce que c'est devenu relativement acceptable dans la tête de millions d'électeurs. Reste à savoir si ces millions feront une majorité un jour. Mais c'est devenu acceptable que l'extrême droite soit au pouvoir avec un corpus idéologique que l'on connaît, qui est le corpus protectionniste, qui est une France quand même refermée, certains diront repliée sur elle-même. Et c'est un corpus qui est extrêmement populaire aujourd'hui.
D'accord.
Porté d'ailleurs par les insoumis.
Deuxième question.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose ?
Oui, mais vite, parce que sinon on n'aura pas le temps de traiter les trois questions.
Je ne crois pas que Marine Le Pen puisse être celle-là. Je réserve mon cas pour Mario Maréchal Le Pen, qui
d'accord.
a l'air d'être plus habile pour ouvrir, en tout cas.
Deuxième question. Est-ce que l'alliance longtemps impossible et à ce jour encore refusée, non pas l'alliance idéologique, non pas, mais l'alliance politique électorale entre le parti Les Républicains, ou ce qu'il en resterait, et le Rassemblement National est devenue possible ou est-ce qu'elle reste impossible, Michel Cotta ?
Ça, je pense qu'elle est très, elle est devenue très possible. Ça dépend beaucoup, encore une fois, du personnage de Marine Le Pen. Mais enfin, on voit bien que Laurent Wauquiez, qui a délibérément visé le Front National et les thèmes du Front National, est complètement absorbé par lui. Et en tout cas, sa stratégie est un échec.
Robert Namias.
Moi, je pense que la partie la plus à droite des Républicains peut fort bien aujourd'hui. On a vu que certains ont franchi le Rubicon, Mariani et quelques autres. Il y en a sans doute beaucoup d'autres au Parti républicain qui, s'il n'y avait peut-être pas d'ailleurs Marine Le Pen, seraient prêts à franchir le Rubicon, ce qui permettrait de recréer une forme de centrisme de droite qui s'exprimerait indépendamment de La République En Marche, si tant est que La République En Marche perdure.
Mais, si vous permettez, troisième et dernière question. On constate sur le terrain qu'il y a entre des militants du Rassemblement National ou très proches du Rassemblement National et des Français proches de la France Insoumise une jonction de fait, une sympathie nouvelle, un mouvement en commun sur des ronds-points, dans des manifestations. On constate que dans l'appréciation de ce mouvement, il y a une convergence très forte entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Ce sont les deux partis politiques qui soutiennent ouvertement le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que du coup, L'impensable, mais c'était impensable en Italie il y a un an, que un mouvement d'extrême droite et un mouvement populiste 2.0 fassent alliance pour gouverner le pays. C'était impensable il y a un an et ça existe depuis le mois d'avril dernier. Donc, est-ce qu'il est impensable encore ou pas qu'un jour la jonction se fasse sur le terrain politique et aille jusqu'à une alliance? Vous nous répondez dans quelques instants.
Mediapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi Michel Cotta et Robert Namias, éditorialiste politique et grande voix d'Europe 1.
Alors Robert Namias, une alliance politique, une alliance électorale, une alliance de gouvernement entre la France insoumise et le Rassemblement national, un jour, c'est devenu possible?
C'est hautement improbable. C'est pas complètement impossible, mais moi je n'y crois pas du tout. Je pense que l'alliance, elle peut se faire électoralement à la base, c'est-à-dire que les électeurs qui votent, encore une fois, je le disais il y a un instant, les électeurs qui votent pour la France insoumise, une partie adhère aux idées de l'extrême droite et vice-versa. Mais ce ne se fera pas, à mon avis, au sommet avec un accord devant les caméras entre Mélenchon et Le Pen. Je reconnais que l'histoire nous raconte souvent des histoires que nous n'avions pas imaginées. Donc,
Michel,
on verra bien.
Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas non plus. Simplement, le mouvement des Gilets jaunes, de ce point de vue-là, est quand même très intéressant. Parce qu'on s'aperçoit que au cœur des Gilets jaunes, d'après toutes les études, il y a beaucoup d'extrême droite et pas mal d'extrême gauche. Donc, quand Robert parle de la base... La base des Gilets jaunes, ils savent très bien, ils sont d'accord sur un certain nombre de points. Alors que ça n'ira jamais, effectivement, on ne voit pas une poignée de main Mélenchon-Le Pen, sûrement pas. Mais moi, l'exemple d'Italie me fait très peur, quand même. Parce que, d'abord, on s'aperçoit que cette alliance, c'est la carpe et le lapin, mais qu'au bout du compte...
Ça tient et c'est populaire.
Ça tient, c'est populaire. Ils prennent un certain nombre de décisions, y compris le repeuplement de l'Italie du Sud, qui passe très bien. Et quand même faire attention, la base, de temps en temps, peut être plus forte que les chefs.
Alors si je reviens un instant sur le grand débat avant que l'émission se termine, Paul Lassène, dans sa préparation, a repéré une exclusivité d'Aurélie Herbemont, du service politique d'Europe 1, qui s'est procuré le questionnaire transmis par le parti Les Républicains à ses adhérents sur les sujets à traiter lors du grand débat. Ils ont choisi 4 thèmes, comme le gouvernement, mais pas la même chose. La droite a décidé de les interroger sur, sur un des thèmes, oui, la baisse de la dépense publique, mais sinon l'immigration, le terrorisme et la délinquance. Ce sont 19 questions posées côté immigration, genre approuvez-vous le retour systématique des bateaux de migrants sur les côtes africaines, la suppression du droit du sol pour les immigrés illégaux, pour la délinquance, approuvez-vous la castration chimique pour les violeurs multirécidivistes. Donc il va carrément sur des questions délibérément très loin des thématiques mises dans le grand débat.
Bah, d'une certaine manière, ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure. Y a-t-il une possibilité d'alliance et d'accord entre une partie de la droite et des Républicains et l'extrême droite? Vous la trouvez dans ce que vous venez de citer. Ce sont des terrains sur lesquels, évidemment, ils peuvent se retrouver et se rassembler. Et je pense qu'une partie des Républicains et une partie de la droite a très envie de travailler sur ces thèmes-là avec le Front National.
De ce point de vue-là, quand même, le Front National a remporté des points. Au fond, tout ce qu'on dit aurait été inimaginable il y a 5 ans. Et maintenant, mais je pense, moi,
mais
que
ça,
c'est.
Ça, je pense que ça.
Je pense
ça
que c'est de la faute. Je pense vraiment que c'est de la faute de Laurent Wauquiez qui a vraiment orienté les Républicains dans un sens. Il aurait très bien pu jouer beaucoup plus large. Il pouvait, y compris, profiter des difficultés de Macron pour jouer plus large. Bon, il a joué d'une manière étroite. Du coup, rien ne le sépare du Front National, sauf peut-être moins d'exploitation de fake news, si vous voulez. Mais rien ne le sépare à l'heure actuelle. Et ça va finir, à un moment donné, par se voir.
Ça va finir par se voir, on conclura là-dessus, ou plus exactement là-dessus, la discussion. Et je remercie beaucoup Robert Namias et Michel Cotta, auteur de Fake News, passionnant roman politico-policier aux éditions Robert Laffont. Ça se dévore, hein. Je vous dis, les 360 pages, je les ai avalées à toute allure. Et pourtant, je lis lentement. Et pour terminer, nous allons, nous aussi, rendre hommage à Michel Legrand, mais avec, grâce à Jean-Luc Arblade, une chanson très peu connue, et donc vous n'allez pas l'entendre toute la journée sur toutes les radios de France et de Navarre. Paris was made for lovers. Paris a été fait pour les amoureux. Chanson de 1972.
Paris was made for lovers. Paris was made for lovers. Why else would Paris even be there? The little streets are charming, the mademoiselles disarming, and they're the reason you'll find me there. Paris was meant for lovers, it's something one discovers. You'll walk along the Seine and hear it so. Just seems to sweep your heart along. Paris was made for romance. Paris was made for romance. Why else would songs be sung about her? Don't let the smile deceive you. For if your love should leave you, how lonely it would be without her. Paris was made for people, for warm and loving people, for all those baby dreams that could come true. Made for lovers, Paris was made for me and you. Paris was made for me and you.
Non, Joe, tous ceux que les gilets jaunes exaspèrent dédient cette chanson à tous ceux qui soutiennent les gilets jaunes. Paris was made for lovers, for romance. C'était Mediapolis, vous pouvez faire écouter, réécouter, découvrir, entendre cette émission en podcast sur europe1.fr, c'est très facile à faire. Et sinon, on se retrouve, nous, samedi prochain. Merci Robert Namias, merci Michel Cotta,
merci
Jean-Luc Arblade qui a préparé l'émission, trouvé cette magnifique chanson qu'il a réalisée, l'émission, et merci à Paul Lassen.
Merci Olivier Duhamel. Rendez-vous samedi prochain à 10h pour un nouveau Mediapolis. Pour la suite du programme, vous êtes invité à la table des bons vivants jusqu'à midi et demi avec Laurent Mariotte et toute son équipe. Une table qui reste en studio à Europe 1 mais qui fait aussi le tour des marchés comme d'habitude. N'est-ce pas Laurent ? Bonjour.
Bonjour Justine. Oui, comme tous les samedis, nous irons faire un tour sur le marché. Nous irons dans le nord à Bailleul. Nous allons parler aussi du vrai jambon de Paris avec un maître charcutier. Et puis nous reviendrons sur le palmarès du guide Michelin avec Bruno Verju, un chef étoilé depuis un an, et Stéphanie Lekelec qui vient de décrocher 2 étoiles à Paris. A tout de suite Justine.
A tout de suite Laurent.